Vocation ou sacrifice? Le sujet qui nous occupe aujourd'hui touche à un public bien plus large que celui des soignants. On peut bien sûr penser au ministère chrétien à plein temps, mais aussi à tous les métiers passion qui ne se limitent pas à juste faire son boulot, empocher son salaire et profiter de la vie. Avoir un métier passion, c'est être tellement passionné, concerné par ce qu'on fait, qu'on y pense même quand on ne travaille pas, qu'on est capable de ne pas voir le temps passer quand on est dessus, qu'on peut y mettre beaucoup trop d'énergie jusqu'à se cramer complètement. Alors la question qu'on va se poser maintenant, c'est jusqu'où aller? Les chrétiens, même ceux exerçant un métier alimentaire, sont sujets à aller loin dans le sacrifice de soi, parce que Paul l'a demandé explicitement. Voici ce que Paul nous dit dans sa lettre aux Romains, chapitre 12, versets 1 et 2. « Je vous invite donc, frères, à cause de cette immense bonté de Dieu, à lui offrir votre corps comme un sacrifice vivant, sain et qui plaise à Dieu. Ce sera là, de votre part, un culte spirituel. » Ne vous laissez pas modeler par le monde actuel, mais laissez-vous transformer par le renouvellement de votre pensée pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. L'ADN du chrétien, c'est le sacrifice de soi, comme Jésus, notre maître, s'est sacrifié. D'ailleurs, cet été, j'ai vu mes collègues québécois lors de la rencontre mondiale des GBU et ils me disaient qu'ils étaient revenus un peu effrayés d'une grande conférence missionnaire américaine où ils ont beaucoup plus entendu des discours qui parlaient d'accomplissement de soi, c'est-à-dire ce que la mission m'apporte, que de sacrifice de soi, c'est-à-dire je me donne à la mission. Dans notre siècle, où la culture du plaisir auto-centré est reine, la notion de sacrifice de soi propre au christianisme est plus que jamais à maintenir et à rappeler. Cependant, il faut s'entendre sur ce qu'on met derrière le sacrifice de soi. Ne plus avoir de vie, s'éreinter au travail, combler tous les vides pour sauver le monde, est-ce que c'est ça le sacrifice de soi voulu par Dieu? Heureusement, Paul vient préciser sa pensée au verset 3 de Romains 12. Voici ce qu'il dit à la suite des deux premiers versets que je viens de lire. « En vertu de la grâce que Dieu m'a faite, voici ce que je dis à chacun d'entre vous. Ne soyez pas prétentieux, n'allez pas au-delà de ce à quoi vous devez prétendre. Tendez au contraire à une sage appréciation de vous-même, chacun selon la part que Dieu lui a donnée dans son œuvre régie par la foi. » Ensuite, il parle du fait que nous ne sommes pas seuls, qu'il y a des frères et sœurs autour de nous et que nous devons bien faire ce que nous savons faire et laisser les frères et sœurs faire ce qu'ils savent faire. Donc, ne pas tout faire, ne pas se soucier de tout, mais bien faire sa partie en comptant sur les autres. L'Église est un écosystème où l'on est obligatoirement interdépendant, où l'on n'a pas tout à tout faire tout seul. Voici la règle. Oui, mais quand l'écosystème est déséquilibré, me direz-vous, ne doit-on pas compenser? Et mon cabinet, mon hôpital, c'est pas une église, pourriez-vous me dire aussi? Je répondrai certes, mais la question que nous devons nous poser, c'est: avons-nous vocation à être épuisés? Avons-nous vocation à être blasés, à être énervés? Avons-nous vocation à être désespérés? C'est ça la question qu'il faut se poser, quelle que soit la situation. Revenons à la définition du sacrifice. Connaissez-vous les critères d'un bon sacrifice selon la loi de Moïse? Il y en a trois principaux. Premièrement, il faut le bon animal. Le bon animal, c'est celui que Dieu a désigné pur pour les sacrifices. C'est-à-dire, ça peut être un bœuf, pour ceux qui sont riches, un agneau, un bélier pour les classes moyennes, ou une tourterelle, colombe, pour les pauvres. Voilà les trois animaux que Dieu a désignés comme purs pour être sacrifiés. Ce qui veut dire que voilà, si vous voulez sacrifier un lézard, ça ne marche pas, car il ne fait pas partie des animaux que Dieu a jugé bon à être sacrifiés. Et j'imagine que la communauté des lézards loue Dieu tous les jours pour cela. Mais en tout cas, il faut choisir le bon animal, c'est pas nous qui choisissons l'animal à sacrifier à Dieu, c'est Dieu qui décide l'animal à sacrifier. Deuxième critère, il faut que ce soit un animal sans défaut. Cet animal doit avoir de la valeur, il doit être parfait. Il doit coûter à celui qui l'amène, et c'est normal parce que cet animal est destiné à prendre sa faute. Une faute qui devrait coûter la vie à l'adorateur. Au lieu de cela, Dieu lui fait la grâce de lui permettre d'offrir un animal à sa place, un animal qui va mourir à sa place, pour être pardonné par Dieu. Donc c'est la moindre des choses de donner un animal sans défaut, un animal qui coûte. C'est le deuxième critère. Le troisième critère, c'est d'offrir un sacrifice dans le bon cadre, c'est-à-dire sur un autel, l'autel du tabernacle, l'autel du temple, et avec un prêtre. Si l'adorateur doit égorger lui-même la bête et lui infliger lui-même le châtiment qu'il devrait endosser, c'est le prêtre, le grand prêtre, qui doit asperger du sang de la bête sacrifiée, l'autel, les cornes de l'autel. Donc en fait, on ne sacrifie pas n'importe comment. Et Saül en sait quelque chose. On ne peut pas faire n'importe quoi, sinon on risque d'être rejeté par Dieu. Là encore, ce sont les critères fixés par Dieu qui prévalent. Nous le savons, le sacrifice de Jésus a modifié les prescriptions mosaïques, puisque Jésus a tout à fait accompli tout le système sacrificiel de l'Ancienne Alliance. Jésus est à la fois le sacrifice parfait, il est aussi le temple, et il est aussi le grand prêtre. Son sacrifice parfait est permanent. Nous n'avons plus besoin d'accomplir de sacrifice. Mais dans Romains 12, parle d'accomplir un autre sacrifice. Il parle de se sacrifier soi-même, en permanence, pour répondre à ce que Jésus a fait. Et c'est tout à fait logique, puisque en tant que disciples de Jésus, eh bien, nous sommes à notre tour des sacrifices vivants, nous sommes aussi le temple du Saint-Esprit, et nous sommes une communauté de prêtres, à la suite de Jésus. Donc c'est tout à fait normal que nous ayons à nous sacrifier en permanence, comme lui s'est sacrifié, et son sacrifice est lui aussi efficace en permanence. Donc ça veut dire finalement, se sacrifier soi-même, être pleinement consacré. Mais quand Paul parle de sacrifice, on ne peut pas s'empêcher de penser à la valeur de la bête. La bête, c'est nous. Dans la loi, la bête doit être sans défaut, mais heureusement que nous savons que nous pouvons bien entendu servir Jésus malgré nos défauts. Alors, comment lui offrir le meilleur sacrifice possible grâce à nos corps, notre caractère, notre comportement imparfait? Réponse, c'est par la manière dont nous le faisons. L'équivalent de l'animal sans défaut aujourd'hui, c'est de servir avec le bon état d'esprit. Sans le bon état d'esprit, le sacrifice est impur. C'était exactement la situation des Corinthiens. Ils avaient plein de dons, ils avaient une énorme richesse dans leur église, mais Paul vient les remettre à leur place dans le fameux 1 Corinthiens 13. Donc, la première lettre de Paul aux Corinthiens, chapitre 13. Voici ce qu'il leur dit, eux qui ont tellement d'occasions de servir et qui ont tellement de dons en leur sein. En effet, supposons que je parle les langues des hommes et même celles des anges, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien de plus qu'une trompette claironnante ou une cymbale bruyante. Supposons que j'ai le don de prophétie, que je comprenne tous les secrets et que je possède toute la connaissance. Supposons même que j'ai, dans toute sa plénitude, la foi qui peut transporter les montagnes. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. si même je sacrifiais tous mes biens et jusqu'à ma vie pour aider les autres, au point de pouvoir m'en vanter si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. Faire les choses, faire les meilleures choses, avec le mauvais état d'esprit, cela équivaut tout aux yeux de Dieu. On oublie souvent que 1 Corinthiens 13 est une énorme baffe dans la figure des Corinthiens. Eux qui estimaient être si riches, eux qui estimaient être si spirituels, Paul leur dit que tout cela ne sert à rien, parce que leur éthique est déplorable, parce que le culte c'est du n'importe quoi, parce que la communion fraternelle est mauvaise. Et pour, à cause de tout cela, eh bien, tout ce qu'ils peuvent faire à côté qui peut être absolument merveilleux, cela ne sert à rien, parce qu'il n'y a pas l'amour. Alors voilà, ça rappelle hein, ce côté sacrifice impur, sacrifice de mauvaise valeur, comme sacrifier une bête avec des défauts, comme sacrifier une bête qui n'est pas agréée par Dieu, comme sacrifier la bête dans le mauvais cadre. Alors, comment faire pour avoir ce bon état d'esprit qui fait de nous des sacrifices vivants, sains et qui plaisent à Dieu? C'est simple, il faut aller à la source. Et pour cela, on va lire un troisième passage dans Jean 15. Jean 15, c'est un moment où Jésus fait un discours d'adieu à ses disciples avant d'être arrêté et crucifié. Voici ce que Jésus dit à ses disciples, une partie du testament spirituel qu'il leur donne. C'est moi qui suis la vraie vigne, et c'est mon Père qui est le vigneron. Tout sarment qui en moi ne porte pas de fruit, il l'enlève. Tout sarment qui porte du fruit, il le purifie en le taillant, pour qu'il porte encore plus de fruits. Vous, vous êtes déjà purs à cause de la parole que je vous ai dite. Demeurez en moi, comme moi en vous. Tout comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure dans la vigne, vous non plus, si vous ne demeurez en moi. C'est moi qui suis la vigne. Vous, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi, comme moi en lui, celui-là porte beaucoup de fruits. Hors de moi, en effet, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il se dessèche. On ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez et cela vous arrivera. Mon Père est glorifié en ceci, que vous portiez beaucoup de fruits et que vous soyez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme moi j'ai gardé les commandements de mon Père et je demeure dans son amour. Je vous ai parlé pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit complète. Voici mon commandement. Que vous vous aimiez les uns les autres, comme je vous ai aimé. Personne n'a de plus grand amour que celui qui se défait de sa vie pour ses amis. Vous, vous êtes mes amis, si vous faites ce que moi, je vous commande. Je ne vous appelle plus esclave, parce que l'esclave ne sait pas ce que fait son maître. Je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai entendu de mon père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et institué pour que vous, vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que le Père vous donne tout ce que vous lui demanderez en mon nom. Ce que je vous commande, c'est que vous vous aimiez les uns les autres. 11 fois, Jésus parle de demeurer en lui. Je crois que le message est très clair. Demeurer en Jésus, c'est porter beaucoup de fruits, verset 8. C'est-à-dire garder ses commandements, et particulièrement celui de s'aimer les uns les autres. Et demeurer dans l'amour de Jésus, garder les commandements de Jésus, c'est jouir d'une joie complète. Est-ce que vous saisissez l'état d'esprit ? C'est en Jésus que nous trouvons notre identité. C'est en Jésus que nous trouvons l'exemple parfait. C'est en Jésus que nous trouvons une manière de faire. C'est en lui que nous pouvons savoir ce que c'est que aimer et se sacrifier. Quand nous regardons la vie de Jésus, comment est-ce qu'il a fait ? Ce que nous pouvons voir, c'est que premièrement, quand Jésus se sacrifie, il le fait pour obéir à son Père. Aimer, ce n'est pas un sentiment, mais c'est une décision. Et surtout, Jésus ne fait rien par intérêt personnel. Être admiré, se sentir puissant, démontrer qu'il est Dieu. Non, Jésus, s'il fait les choses, c'est pour obéir à son Père. Il se sacrifie pour obéir au Père. Deuxième chose, il le fait volontairement. Personne ne dicte le calendrier de Jésus. Quand il doit enseigner, il enseigne. Quand il doit se reposer, il se repose. Quand il veut être seul avec son Père, il part et il va prier dans un endroit isolé. Quand il veut être seul avec ses disciples, comme pour notre passage de Jean 15, il le fait. Il se retire et il enseigne uniquement les disciples. Et quand c'est le moment de la confrontation avec les religieux ou le moment de se sacrifier, eh bien il y va. Mais c'est lui qui choisit le moment. C'est pas les autres qui lui dictent son calendrier, alors qu'en fait il pourrait passer toute sa journée à enseigner et à faire des miracles. Mais non, il décide. Il fait ça avec le bon état d'esprit. Troisième chose, Jésus se sacrifie de la bonne manière. C'est-à-dire qu'il le fait pour le royaume. Il est conscient que ce qu'il fait, que le combat qu'il mène, est un combat spirituel. C'est pas un combat humain qui est en train de se jouer, c'est un combat avant tout spirituel. Jésus est donc à la fois conscient de la gravité du péché dans le cœur de ses contemporains, mais il est aussi conscient de la manière de restaurer les personnes. Il enseigne différemment des autres maîtres. Il a un rapport différent aux personnes. Je pense que c'est à la fois parce qu'il aime vraiment les gens et aussi parce qu'il discerne ce qui va vraiment les faire avancer. En d'autres mots, Jésus ne se laisse pas intoxiquer par les symptômes, mais il va directement à la source du mal pour le traiter. Et ça, j'imagine que le fait de ne pas traiter uniquement les symptômes, ça doit parler à des professionnels de santé. Alors comment on fait ? Quelles sont les applications pour nous aujourd'hui ? Je pense que la première application qu'on peut retirer, c'est qu'il y a un seul sauveur, et que c'est pas nous. Et c'est là notre grand drame. Le monde ne va pas bien et nous voudrions le changer, mais ce n'est pas possible. Et ça pourrait nous plonger dans l'amertume. Mais ce qui est merveilleux, c'est que le Seigneur est toujours actif. Le Seigneur est le maître de l'histoire et il n'a pas besoin de nous pour que son royaume avance. Mais il nous utilise quand même, par sa grâce. Alors, restons à notre place. Faisons ce que nous savons faire et regardons Dieu agir. Cela nous reposera, parce que nous reposer sur lui est très reposant. Et surtout, cela sera bénéfique à notre santé mentale, physique. Et donc, cela sera aussi bénéfique à la santé de notre entourage, qui nous verra heureux et qui sûrement sera un peu moins saoulé par notre attitude, pas toujours très positive. La deuxième application que nous pouvons tirer, c'est que vous pouvez sauver tous les patients que vous voulez. Si vous ne le faites pas pour les bonnes raisons et avec le bon état d'esprit, ça ne compte pas aux yeux de Dieu. C'est pure vanité. Notre cœur est si tortueux que nous pouvons faire des choses extraordinaires par désir de toute puissance, par volonté de briller, par revanche, par colère, bref, avec plein de sentiments extrêmement négatifs qui ne se voient pas. Les gens peuvent nous voir comme des personnes extrêmement virtueuses, elles peuvent nous envier, voilà, elles peuvent nous mettre sur un piédestal. Mais en fait, dans notre cœur, ça peut être absolument n'importe quoi. Ça, c'est parce que nous pouvons regarder notre nombril et pas le Seigneur. C'est parce que nous pouvons faire les choses en étant obsédés par nous-mêmes et pas en étant obsédés par la volonté de Dieu. Alors, examinons notre cœur pour discerner nos motivations réelles. Faisons un sondage auprès de nos collègues ou de notre famille, à nos risques et périls, parce qu'ils nous connaissent bien et ils pourraient nous renvoyer une image qui n'est pas du tout celle que nous avons. Mais surtout, demandons à Dieu de nous conduire sur la bonne voie. Nous ne voulons pas être de mauvais sacrifices. Alors, réformons notre état d'esprit. Et enfin, troisième application, qui est une question. Comment demeurer en Jésus ? Puisqu'il nous dit de demeurer en lui. Eh bien, les deux réponses qui font un peu réponse école du dimanche, bien, c'est-à-dire en lisant la Bible et en priant, bien sûr. Pourquoi en lisant la Bible ? Eh bien, c'est parce que pour connaître l'état d'esprit qui plaît à Dieu, pour vraiment comprendre comment Jésus accomplit parfaitement ce qu'Israël et ses rois, ses prophètes n'ont pas pu accomplir, eh bien, il faut lire toute la Bible et la méditer très régulièrement. Sinon, on ne comprend pas vraiment à quel point Dieu nous aime, à quel point Dieu est extraordinaire et à quel point son plan est parfait. On ne comprend pas vraiment la vraie valeur du sacrifice de Jésus si on ne lit pas toute la Bible régulièrement. Si nous oublions l'enseignement de Jésus, notamment ce qu'il dit des serviteurs, eh bien c'est notre mauvaise nature qui reprendra le dessus et nos fruits seront médiocres. Nous devons donc prier sans cesse, c'est-à-dire lui remettre nos actes quotidiens, les personnes, les patients que nous rencontrons et permettre au Saint-Esprit de réformer notre caractère et donc notre comportement. Lisons la Bible et prions toujours. Alors conclusion, avoir un métier passion doit au final être vécu positivement par nous, notre entourage, ceux pour qui nous travaillons et surtout par Dieu. C'est notre vocation, être un sacrifice de bonne odeur pour lui. Amen.